9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Camarades auditrices et auditeurs, Maître Serran vous salue en ce vendredi 1er juillet 2022. Déjà, le 1er juillet. Et qui dit 1er juillet dit vacances qui risquent peut-être d'être gâchées par le retour d'un nouveau variant et le retour très prochainement imposé du masque. Normal, les élections présidentielles et législatives étant terminées, il fallait bien revenir à une réalité plus crue et alimenter à nouveau tous les jours l'actualité avec ce fameux Covid. Pour autant, tentez de profiter de vos vacances car, je le dis très officiellement aux plus jeunes, la rentrée scolaire arrive à grands pas. Il suffit de se rendre dans les magasins et vous pouvez dès à présent acheter votre nouveau cartable, vos fournitures et surtout, surtout, n'oubliez pas votre fameux cahier de vacances. Quand je pense, mon cher Philippe, qu'il fut un temps où j'avais bassiné mes enfants avec ces cahiers de vacances, je me suis vite rendu compte de la bêtise et surtout de l'injustice de la chose. Bah oui, quand t'es un adulte, tu pars en vacances, tu prends pas de boulot avec toi. Alors pourquoi embêter les enfants avec ces cahiers pourris? Les vacances, c'est fait pour s'éclater, pour buller, mais surtout, surtout pour ne pas emmerder nos gamins. À propos de gamins, j'aimerais saluer les élèves de 3e qui planchent là au moment où je vous parle pour obtenir le fameux brevet des collèges et plus particulièrement mon fils Rachid, je compte sur toi mon grand. C'est un moment particulier pour ces derniers car c'est le premier examen qu'ils affrontent, mais je les rassure immédiatement. À l'heure où être titulaire d'une maîtrise ne vous assure plus aucun avenir professionnel radieux, à l'heure où avoir le bac est devenu un non-événement, je vous laisse imaginer ce que peut signifier le brevet des collèges. Bon courage tout de même à vous, les troisièmes. Après ce petit coucou, évoquons l'actualité de la semaine et notamment la fin du procès des attentats du 13 novembre avec un verdict sans grande surprise rendu par la cour d'assises spéciale de Paris. Qu'a-t-elle de spécial, me direz-vous? Eh bien, elle est composée que de magistrats professionnels. Et c'est une peine exceptionnelle qui a été prononcée à l'encontre de Salah Abdeslam, réclusion criminelle à perpétuité incompressible, ce qui signifie au minimum 30 ans, c'est la peine la plus sévère prévue par le droit français. Il faut savoir qu'après 30 ans derrière le barreau, Salah Abdeslam pourra demander un aménagement de peine au tribunal de l'application des peines avec, je crains, une probabilité infinitésimale d'avoir une oreille attentive. Alors, dans la mesure où il ne fallait pas s'attendre à autre chose que ce type de peine, ne fallait-il pas opter pour ce qui a été appliqué avec talent par feu Jacques Vergès, une défense de rupture? Cette défense de rupture que l'on oppose à une défense de connivence consiste à remettre en cause un système, à nier la légitimité même des juges. Alors, je ne peux qu'inviter Salah Abdeslam à interjeter appel et à opter pour cette défense de rupture, à expliquer les raisons de ses actes à moi. Évidemment que ce dernier et les autres personnes qui ont également été condamnés n'étaient que des acteurs médiocres sans aucune conviction, que des marionnettes pilotées par une main obscure qui ne sera, elle, jamais menottée. Et enfin, je termine mon excellente et longue chronique en saluant Mourad. Alors, vous aurez compris, mon cher Philippe, que je ne suis pas imbu de ma personne au point de me saluer.
Je ne sais plus.
Mais un autre Mourad que j'ai eu le plaisir de rencontrer cette semaine et à qui je fais un petit coucou. Alors, coucou. Allez, j'arrête là. À vous la parole. 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui va peut-être passer ses vacances à la radio. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serran, pourtant vous rencontrez pas mal de gens toutes les semaines, et pourquoi vous saluez Mourad? Plus particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé?
Rien de particulier, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer cette personne. On m'a beaucoup parlé de ce Mourad, et effectivement, c'est quelqu'un d'agréable et manifestement de très compétent dans son domaine. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Mourad, il aurait pu s'appeler Mimoun, par exemple. Voilà, ou un autre prénom, mais voilà, vous savez, parfois il n'y a pas besoin de discuter très longtemps avec quelqu'un pour sentir quelque chose, ça match, comme on dit. Donc s'il m'écoute, je le salue.
Je suis jaloux, du coup, Maître Serran, je suis à la fois jaloux et curieux.
Mais je peux pas tout...
Tout dire comme ça,
à l'antenne.
À l'antenne,
ah oui.
C'est pas votre genre. Bon, vous êtes parti en vacances?
Il est parti en vacances ou je suis parti en vacances?
Non, vous allez partir en vacances.
Je vais partir en vacances? Ben non, je crois pas parce que j'avais
plus de voiture.
Je devais partir avec un véhicule que je n'ai plus.
Ah oui, vous prendrez le train, Maître Serran.
Il y a que ça à faire. Ah. Mais ouais, donc ça me semble quelque peu compromis.
Ceci dit, le train avec toute la famille Serran, ça va faire un budget. Hein.
Oui, c'est vrai parce que vous me connaissez, c'est-à-dire je réserve jamais à l'avance,
Là vous pouvez y aller,
c'est-à-dire que c'est toujours
aussi cher que pour aller en Algérie.
Voilà, donc c'est toujours plan pot.
Vous pourrez poser vos questions en direct à Maître Serran, qui n'est toujours pas parti en vacances, au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Maître Serran qui a décidé de nous parler de droit du travail aujourd'hui. C'est un peu bizarre
pour, ben oui.
pour le 1er juillet. Alors, sur une question qu'on n'évoque pas souvent, par exemple, c'est ce qu'on appelle la durée maximale du travail hebdomadaire, par exemple. Quelle est-elle ?
Alors, on a cette fameuse règle des 35 heures par semaine.
Oui. Hein,
donc tout le monde la connaît, mais il faut savoir que les 35 heures par semaine, c'est, j'allais presque dire, quasi à titre informatif. Alors, on peut travailler en dessous, on peut travailler au-dessus, mais on a quand même une limite qui est fixée à 48 heures par semaine. Et ce qui est important dans les décisions qu'on va évoquer, c'est ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est quoi ? Ce sont les décisions qui sont rendues par les plus hautes juridictions en France, en l'occurrence, dans ce domaine-là, c'est la Cour de cassation. Et lorsque la Cour de cassation tranche tout le temps dans le même sens, ça constitue une jurisprudence. En la matière, on a toujours considéré que qu'un patron qui vous faisait travailler au-delà de la durée légale du travail, au-delà des 48 heures, ça ne constituait, en tout cas ça donnait lieu entre guillemets à indemnisation que si vous pouviez justifier d'un préjudice. Alors ça pouvait être un préjudice moral, ça pouvait être un préjudice physique, en tout cas en gros dire j'ai fait beaucoup trop d'heures de travail, il y a un impact sur mon physique, sur ma situation familiale, donc il fallait justifier d'un petit quelque chose. Et la Cour de cassation a considéré, dans la dernière décision rendue, que cette indemnisation serait, on va dire, automatique. Il n'y a plus besoin aujourd'hui, lorsque vous poursuivez un employeur pour dire « j'ai travaillé au-delà de la durée légale de travail », vous n'avez plus besoin de dire que le fait d'avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail m'a impacté, a constitué un préjudice. Vous serez indemnisé automatiquement et ça, c'est une véritable jurisprudence nouvelle. Donc, ça va permettre en tout cas aux salariés de pas se laisser, entre guillemets, abuser, ceux en tout cas qui n'ont pas le choix, et ça va permettre aux employeurs de réfléchir avant, à l'avenir, de faire en sorte d'essorer leurs salariés. Mais comme la Cour de cassation est très en forme, on a une deuxième jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est comme ça, c'est par période. C'est-à-dire qu'à un moment, on rend une décision, pendant 10 ans, ça n'évolue pas, et puis on ne sait pas trop pourquoi. La Cour de cassation, au bout d'un moment, on se réveille. Et la deuxième jurisprudence est également très intéressante, puisque, là encore, vous aurez le droit d'être indemnisé, mon cher Philippe, si, par exemple, dans le cadre de votre emploi, vous avez été pris en photo. Alors oui, on voit ça dans de nombreuses sociétés, dans de nombreuses entreprises où vous êtes pris.
Alors non, ils nous font signer quand même.
Alors pas toujours, c'est ouais. Ça la difficulté. Mais je vais revenir sur le fait même si
on a signé la question du droit à l'image.
Mais la question se pose quand même. C'est-à-dire que alors, quand vous êtes filmé ou quand vous êtes pris en photo
ouais.
Alors. Si, évidemment, on vous prend en photo avec un accord verbal, entre guillemets, la société se met en porte-à-faux. Mais les sociétés ont fait, comme vous le dites très justement, fait signer donc des contrats, ou alors c'est même parfois dans le cadre du contrat de travail, on vous rappelle que vous serez tenu éventuellement à participer à une petite vidéo de la société ou à être pris en photo. Et puis ça posait pas de difficulté, et puis on l'acceptait, et puis même si vous étiez licencié, même si vous étiez amené à démissionner, on considérait que ça appartenait entre guillemets à la société, et que la société pouvait à tout moment ressortir ces photos ou ces vidéos. Et là encore, la Cour de cassation a statué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne faites plus partie de cette société, à partir du moment où vous avez démissionné, où vous avez été licencié, l'employeur est tenu de mettre fin, en tout cas de détruire ses photos ou ses vidéos, et là encore vous pouvez l'invoquer sans justifier d'un quelconque préjudice. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire que je trouve que dans cette vidéo, que dans cette photo, j'ai n'importe quoi, j'avais tel ou tel physique, ça me cause un préjudice, ou j'ai pas envie que mon nouveau patron puisse voir cet aspect-là que j'avais il y a quelques années. Donc, il n'y a plus besoin aujourd'hui de préjudice, c'est quasi automatique. Il y a...
Mais attendez, quand vous dites c'est quasi automatique, ça correspond à quoi ?
Mais ça correspond au fait que...
Il faut quand même le demander, il faut faire une action.
Alors, en principe, ouais. La règle étant, qu'avec cette jurisprudence, les sociétés qui nous écoutent doivent maintenant, encore une fois, on part du principe de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Si je suis un patron de société, mon cher Philippe, je vous ai pris en photo ou je vous ai filmé, et puis pour une raison lambda, vous ne faites plus partie de la société, je dois, moi, patron de société, je dois, moi, employeur, faire en sorte de ne plus utiliser ensuite votre photo, de ne plus utiliser votre vidéo. On sait que dans la pratique, évidemment, et je peux l'entendre et le comprendre, c'est une question d'organisation, ça va pas forcément se passer comme ça. Donc il faut pas hésiter. Lorsque vous quittez la société, lorsque vous démissionnez ou lorsque vous faites l'objet d'un licenciement, il faut pas hésiter à prendre quand même l'initiative. N'attendez pas, évidemment, que le patron se dise spontanément « Tiens, il va falloir faire ça », même si, encore une fois, c'est une obligation pour lui. Mais il va falloir le signaler. Et si vous avez l'impression, mais par exemple en allant sur le site internet de votre société, vous voyez encore votre visage, vous voyez que vous êtes encore avec des collègues de boulot, vous avez la possibilité de saisir les prud'hommes et de demander à être indemnisé. Alors en règle générale, l'employeur, alors sauf à être débile profond, mais l'employeur, si vous le prévenez, voilà, il est légaliste, il va respecter la loi et puis il fera en sorte que tout ça soit écarté du circuit. Mais dans l'absolu, si vous avez l'impression que vous avez un employeur quelque peu obtus, s'il garde des photos de vous, s'il garde des films d'entreprise dans lesquels vous apparaissez, vous avez désormais la possibilité de demander à être indemnisé, et là encore, sans justifier d'un quelconque préjudice. Ça a l'air de rien, peut-être, pour monsieur, madame, tout le monde là qui nous écoute, mais il faut savoir que c'est une notion en droit qui est extrêmement importante. Le principe a toujours été de dire « je demande réparation, il faut que j'établisse un lien de causalité avec un préjudice subi ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de demander, en tout cas de justifier d'un préjudice. Je considère que les heures de travail ont été dépassées, c'est suffisant. Je considère que ma photo, le film sur lequel j'apparais, est toujours sur le site de la société alors que je n'y travaille plus. En soi, c'est suffisant. Et c'est là où on parle de revirement de jurisprudence. En règle générale, une jurisprudence, ça dure une dizaine d'années. C'est-à-dire que pour l'instant, pendant 10 ans, entre guillemets, les salariés sont tranquilles. Il y aura probablement d'ici là un nouveau revirement de jurisprudence.
Bien, Maître Serran sur Beurre FM. Alors, vous pourrez poser vos questions en direct dans un instant au standard. Tous les sujets sont évoqués avec Maître Serran au 01-53-48-3000. 01-53-48-3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Eh oui, comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Et Maître Serran nous la rappelle à tous les vendredis entre 9h et 10h sur Beurre FM. Vous posez vos questions au standard à Maître Serran au 01 53 48 3000. Et c'est Latifa qui est avec nous. Latifa, bonjour et bienvenue.
Bonjour l'équipe.
Bonjour Latifa.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tout le monde.
Merci.
Bonjour
Latifa. Et vous êtes à Montpellier, Latifa.
C'est ça, exactement. Alors moi, j'ai une petite question pour Maître Serran. En fait, c'est concernant mon mari qui travaille de nuit. Donc, il est en CDI. Il a occupé ce poste de nuit pendant plus de 6 mois. Et du jour au lendemain, son employeur lui a demandé de changer, en fait, de repasser, de basculer en journée. Alors que lui, ça ne lui convenait pas. On a trouvé une organisation familiale comme ça. Et ça l'a perturbé, du coup, est-ce qu'il a le droit de...
En fait, tout dépend de la nature de... Voilà, mais tout dépend de la nature de son contrat de travail.
C'est-à-dire que si... Son contrat, c'est pas stipulé, c'est un contrat assez basique. Et
voilà, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis l'employeur et sur le contrat, il n'y a pas de détail à savoir est-ce que monsieur va travailler la nuit, en journée ou autre. Moi, patron de...
C'est pas obligatoire comme mention un contrat de travail de dire voilà, vous serez amené à effectuer des horaires de telle heure.
C'est toute la difficulté. Et alors c'est ce qui fait que, alors évidemment, j'allais dire quand on est salarié, on n'est pas forcément en position de force, mais j'allais vous dire c'est ce qui fait qu'il faut toujours demander quand même des précisions, en tout cas que les précisions apparaissent par écrit sur le contrat. Mais l'employeur a la maîtrise entre guillemets de l'agenda, c'est-à-dire qu'il va s'organiser en fonction de sa société, en fonction de ses clients, en fonction du travail qui sera amené à fournir. Et donc si je ne spécifie pas sur le contrat de travail que les heures c'est dans la journée ou c'est la nuit ou pareil, si je ne spécifie pas que le contrat de travail doit s'exécuter au sein d'une région ou autre, j'ai toujours la possibilité, en fonction encore une fois de mon activité, j'ai toujours la possibilité de dire à mon salarié, ben voilà, l'activité de la société fait que. C'est encore une fois, c'est toute la difficulté et c'est très difficile pour compléter la réponse apportée à Philippe. C'est très difficile quand vous avez un doute sur les conditions qui apparaissent sur le contrat de travail, de dire au patron, bah tiens, j'aimerais quand même qu'on précise ceci ou cela, parce qu'on se dit, s'il considère que je suis pénible dès le début, bon, il va me dire merci, au revoir. Mais encore une fois, c'est, alors sauf évidemment si vous avez l'impression, mais là il va falloir le démontrer, que c'est j'allais dire pour punir monsieur. Comprenez ce que je veux dire, mais là ça va être c'est une preuve qui est compliquée à apporter. Donc il faudrait en gros dire qu'il y a un litige avec votre mari et que le patron fait ça que pour l'embêter, que ça ne correspond pas à l'organisation du travail. Mais on entre quand même dans quelque chose d'assez compliqué, d'assez subtil, puisque là, pour apporter la preuve de la malveillance de la société, c'est parfois un peu compliqué.
Même s'il y a une autre personne qui, elle était intéressée par ce poste de jour, et qu'on a insisté que ce soit mon mari qui bascule sur ce poste-là.
Alors, c'est pour ça, je vous dis, alors est-ce qu'il y a malveillance ou pas, ça c'est autre chose, mais je le redis, je suis le patron de la boîte. Je dirige la société comme je l'entends. C'est-à-dire, j'ai pas non plus, entre guillemets, avoir forcément une oreille attentive. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est pas dans l'obligation d'avoir une oreille attentive, sur ce que va dire le salaire en disant, écoutez, en gros, vous devriez vous organiser comme ça. C'est moi qui dirige la boîte. Après, je vous dis, sauf si vous avez l'impression qu'il fait ça que pour embêter, pour pas dire autre chose, votre mari.
Ben, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour embêter
le terme impression.
Oui, parce que une impression, ça fait pas d'effet.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Le terme impression, juridiquement,
c'est ce que j'allais préciser. C'est le terme commun qu'on utilise tel que, mais devant une juridiction, il faut le prouver.
Oui, mais on a fait un courrier à l'écrit en stipulant le chamboulement familial par rapport
c'est,
à. Ce...
Alors, quand je dis il faut le prouver, c'est-à-dire qui, vous avez bien compris. Que les magistrats d'un conseil de prud'homme seront pas sensibles au fait que ça va chambouler votre vie. C'est-à-dire, il faut le prouver dans le sens où il faudrait en gros démontrer une intention de nuire. Bah, c'est-à-dire que il y a pas peut-être, mais vous estimez qu'il y a peut-être un jour eu un petit litige entre votre mari et la société, et puis pour lui faire payer ça, on va, pardon pour le terme qui est pas joli, l'emmerder et puis faire en sorte que mais c'est ça qu'il va falloir prouver. C'est le conseil de prud'homme veut pas que vous puissiez lui prouver que ça chamboule la vie, que ça désorganise la famille entre guillemets. Ça c'est pas son problème. Le problème sera de savoir si véritablement la société, le patron, quand il fait ça, d'abord est-ce qu'il peut s'organiser autrement, et puis est-ce qu'il fait ça encore une fois que pour emmerder monsieur. Mais vous comprenez bien que c'est ce qu'on appelle nous en droit quasiment une preuve impossible, très compliqué de démontrer ça.
Bien sûr, compliqué exactement.
Puisque vous me dites qu'il y a un collègue qui dit, moi ça m'arrangerait, c'est-à-dire que quand vous faites la proposition, entre guillemets, de manière officielle, ça donne quoi, ça... Il vous dit non, comme ça et pas autrement.
Non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Monsieur, concernant mon mari, il connaît bien ce secteur, toi tu le connais pas, donc c'est lui qui va gérer ce secteur.
Et quand il dit ça, est-ce que ça correspond à une réalité? C'est-à-dire, est-ce que... alors je peux comprendre que ça chamboule la vie de monsieur et la vie de la famille, mais comme ça, objectivement, est-ce que vous avez l'impression que la société a quand même une bonne raison pour rectifier un peu les horaires de boulot?
Honnêtement, non.
Le poste n'a pas disparu, de toute façon. Il n'a pas été changé d'horaire suite à une disparition du poste.
Non, pas du tout. Du jour au lendemain, on l'a convoqué, on lui a dit, bah, demain, ça sera pas ces horaires-là habituels, tu vas rebasculer en journée. Sachant que...
Alors, initialement, il était en journée.
Non, il travaillait de nuit.
Il a toujours travaillé de nuit.
Il a toujours travaillé de nuit.
Après, je vous dis, bon, vous savez, c'est toujours délicat. Et ça, je l'entends, je le comprends. Bon, rien n'interdirait de demander des explications un peu plus musclées, et notamment de se dire, eh ben, on va aller devant une juridiction pour essayer
pas,
de comprendre ce qui se passe.
Mais voilà,
c'est ce que j'allais vous dire.
Là,
c'est super délicat. Ben oui, parce que, bon, alors, il travaille pas de nuit, mais il travaille en journée quand même. Et c'est sûr que dire, ben, je vais le poursuivre devant un conseil des prud'hommes pour être certain que la société a des bonnes raisons de me faire travailler en journée et pas de nuit, ça va créer un malaise entre la société et votre mari. Donc,
c'est vrai,
voilà, quand on est encore en train de bosser, on est d'accord. J'invite jamais les personnes à faire ça, puisqu'évidemment la situation va pourrir. Mais voilà, on est d'accord. Mais voilà, quand le patron fait ça, il est pas en faute. Encore une fois, il gère et il organise en fonction de ses commandes, de ses clients, voilà, de sa société. Donc, je peux l'entendre et le comprendre. Alors, je sais pas s'il est de bonne ou de mauvaise foi, mais dans l'hypothèse où il serait de bonne foi, voilà, je peux comprendre qu'un patron tente de s'organiser de la meilleure manière possible.
D'accord. Bon, ben, je vous remercie pour toutes ces
questions. Merci à vous pour votre appel et bon courage.
Il y a peut-être aussi, une rémunération qui est quand même pas la même en plus. Je sais
exactement.
Pas.
Exactement. Et justement,
il faut quand même dire que, alors, je sais pas à combien il était majoré votre mari, mais
ça fait très très bien sa vie.
Oui, il y a quand même un impact sur la majoration. Si. Enfin, oui, bien sûr, sur la rémunération.
J'avais oublié ce point.
Non, mais bien sûr. Et ça semblait
c'est
évident.
C'est pas la même chose.
Non, mais on est d'accord. Ça chamboule tout et puis financièrement aussi. Il n'en demeure pas moins, je le redis, que il faudrait une intention de nuire. Voilà, c'est ça l'expression. Il faudrait une intention de nuire. Je fais ça pour emmerder monsieur. Pour essayer de prouver ça, ça me semble très compliqué.
Ouais.
Bon, vous nous tenez
informés. Il y a des personnes qui sont très compliquées. On a une personne qui est contente de travailler de nuit, qui est bien dans son poste, et après on veut tout chambouler, on veut mettre quelqu'un d'autre. Qui veut pas travailler de nuit, alors que c'est simple, quoi. Enfin,
mais vous avez pas de, y a pas de délégué,
délégué du personnel,
ouais.
C'est sûr, on les a fait intervenir, ça a été même discuté en CHE.
Et donc, le côté, entre guillemets, amiable, l'approche tranquille ne fonctionne pas.
Non.
Mais vous avez encore une fois l'impression qu'il fait ça vraiment pour embêter monsieur.
Mais vraiment.
Ouais.
Oui,
donc, il y a un litige, entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça spontanément? Est-ce qu'ils se sont engueulés? Il y a eu un problème?
Non. Après, j'ai pas envie de prouver que c'est raciste, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ça le fait chier que monsieur soit.
Et ça fait combien de temps qu'il travaille là-bas, monsieur?
Ça fait 4 ans.
D'accord.
5 ans maintenant, ouais.
Et vous pensez que le patron s'est dit comme ça, tiens, je trouve, trop noir, trop arabe, trop turc.
Voilà, il gagne mieux, je préfère que ce soit un autre qui soit sur ce poste-là. Je sais pas, c'est
vous
vraiment...
Pensez, ouais, je sais pas, faut faire attention à ce... Alors, je peux comprendre, ça peut
j'ai
être le premier réflexe,
de, mais... de faire d'amalgame,
ouais, voilà, faut faire attention à ça quand même, je veux dire, faut éviter de voir du racisme partout. Parce que si vous me dites que ça fait X temps qu'il bosse et qu'il est rémunéré légitimement par rapport aux heures de nuit... C'est peut-être
c'est
autre
ça,
chose que le fait de se dire.
Avec tout le monde, il n'y a vraiment aucun souci, quoi.
Bon, en tout cas, voilà, vous ne pouvez pas imposer à la direction de bosser, entre guillemets, de jour au lieu de nuit au lieu
d'accord.
De bosser le jour.
Oui, j'étais en route pour le travail, puis j'ai écouté ça, et il faut que j'appelle parce que je regarde sur Internet, il y a plein de choses. Du coup, je vous remercie d'avoir répondu à ma question.
Ben, écoutez, merci pour votre appel.
Merci, bon courage à vous, bonne journée.
Merci Latifa. Tiens, la semaine prochaine, on fera une émission pour la bonne cause. Maître Serran, on fera une émission sur le statut de travailleur de nuit.
Ah, mais moi, je suis fidèle tous les jours, je vous écoute.
Ah bah, restez avec nous, Latifa. Et non, mais Maître Serran, on fera parce que le statut de travailleur de nuit, c'est un statut particulier dans le droit du travail. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, mine de rien, qui n'ont peut-être pas l'impression d'être des travailleurs de nuit, mais qui font des heures de nuit. et qui finalement ont ce statut de travailleur de nuit.
Ce qui veut dire déjà
oui.
que la semaine prochaine, je ne peux pas prendre mon slip de bain et puis partir en vacances.
Non.
Donc déjà.
Non.
D'accord.
C'est ça. La semaine prochaine, vous êtes là.
Bah, non, manifestement, puisque vous dites ça comme ça en direct.
C'est vrai, au débeauté.
Voilà.
Inopinément.
Bah, il n'y a pas de difficulté, c'est noté.
On fait un gros bisou, Latifa.
Allez, merci.
Merci beaucoup. Voilà. Inopinément. Comme les gens de la ligne A du RER, voilà, qui ont fait une grève inopinée cette semaine.
Oui, c'est vrai.
Oh là là, j'ai vécu une semaine, c'est un truc incroyable.
Ouais. C'est chiant, ça. Hein.
J'ai découvert la grève inopinée. Ouais. J'ai fait le tour du 95 en bus, Maître Serran. Je vous raconterai ça parce que c'est passionnant. Allez, d'autres questions. Et j'ai découvert le principe de la grève inopinée.
Ah, voilà.
Voilà, suite à un mouvement de grève inopiné. Donc vous ne serez pas inopinément en vacances la semaine prochaine, Maître Serran, vous serez là vendredi et vous répondrez aux questions au 01 53 48 3000. On accueillera Karim dans un instant, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant.
Bonjour, c'est Vanessa. Retrouvez-moi tous les jours pour vos petites annonces, du lundi au vendredi, de 11h à midi, pour vos petites annonces. Vous vendez votre voiture, vous proposez vos services, vous cherchez l'âme sœur. Eh bien, c'est ici, et nulle part ailleurs, de 11h à midi sur Beurre FM. À tout de suite.
Retrouvez les petites annonces tous les jours de 11h à midi sur Beurre FM. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et Maître Serran répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. Alors on a Boumediene qui est là. Boumediene, bienvenue.
C'est Boumediene, c'est pas Boumediene.
C'est Boumediene.
Boumediene.
Ouais, il n'y a pas de E.
Ouais, moi on m'avait mis Boumediene, j'étais beaucoup plus familier.
C'est
mais
pas grave, c'est pas grave.
Mais Boumediene, c'est la première fois, ouais, avec beaucoup de plaisir.
Pas, ouais.
Voilà. Alors Boumediene.
Oui, Jean-Philippe. Bonjour Maître Serran, bonjour Boumediene. Voilà, j'ai une question peut-être bête que je vous pose. Je suis à la retraite depuis 2011 et j'ai travaillé pour une société pendant 4 ans et 3 mois quoi, en plus. Et quand j'étais à la caisse de retraite demander qu'on régularise ma retraite, on m'a dit c'est fini, on ne régularise pas votre retraite. Vous avez travaillé pour la gloire. C'est normal ?
On avait cette discussion en antenne, vous voyez, finalement, comme quoi. Mais oui. Vous aviez un contrat ?
Voilà ce que j'allais vous dire.
J'avais un contrat.
Vous étiez officiellement déclaré ?
Officiellement déclaré. On me retirait entre 180 et 200 euros tous les mois pour l'URSSAF, la caisse de retraite, le chômage, tout ça, tous les mois.
Mais avant
que 4 jours. Hein.
Voilà, mais avant de liquider la retraite, on vous demande justement de. Comme dirait l'autre, de compléter parfois des cas sur des années manquantes en vous disant est-ce que de telle à telle année vous avez travaillé, si oui, merci de me fournir. Alors en règle générale, c'est un contrat ou des fiches de paye. Est-ce que on vous interroge?
Je suis arrivé à l'âge de 65 ans et à 65 ans, j'ai un mandat en retraite. Là, en principe, j'ai 77 ans. Mais j'ai travaillé pendant 4 ans et 3 mois pour une société avec un contrat pour 4 heures par jour. Et j'ai des fiches de paye, tout. Et quand j'étais à la caisse de retraite, pour poser la question, est-ce qu'on peut revaloriser ma retraite ? J'ai dit non.
Mais indépendamment de demander ce qu'on peut revaloriser ma retraite, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez liquidé votre retraite, vous voyez, il y a un petit préalable où on vous demande, d'abord, on vérifie si toutes les infos sont apparaissent sur le document. Et puis, quand il y a des années manquantes, on vous dit, voilà, à vous de compléter. Est-ce que vous avez déjà été interrogé là-dessus ?
Non, maître, je vous explique. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour une société, puis j'avais été au chômage pendant 2 ans et demi. Et pendant le chômage, ces 2 ans et demi, on m'a dit, vous pouvez pas ressortir en retraite maintenant, il faut sortir à 65 ans. Avec le taux de temps. Bon, à l'époque, je pouvais pas dire, au taux de 65 ans, je pouvais pas dire, non, je ne sors pas en retraite, et je continue à travailler. Donc, je me suis mis en retraite pour avoir au moins un salaire, vous comprenez ?
Bien sûr.
Et de ce fait, je suis sorti à la retraite, et j'ai arrêté. Bon, j'avais été un petit peu malade et tout, j'ai eu un cancer et tout, je me suis soigné. Et après, j'ai travaillé pendant 4 ans et 3 mois pour une société avec un contrat comme chauffeur. Pendant 4 ans et 3 mois, je travaillais avec une fiche de paie, avec un contrat CDI et tout. Et en 2001, j'ai eu un Covid, janvier 2001, j'ai eu le Covid. J'ai dû m'arrêter parce que le Covid m'a complètement mis à terre. Et après que je suis guéri, j'ai été à la caisse de retraite qui se trouvait à la boule à Nanterre. Et j'ai posé la question, enfin j'ai pris rendez-vous et tout. J'ai posé la question, j'ai dit voilà, Maintenant, moi, je travaille tant d'années. Est-ce qu'on peut revaloriser ma retraite? Parce que elle est minime. Retraite. Alors, on me dit non. Votre retraite est clôturée. On n'avait pas à vous travailler pour la gloire, quoi.
En fait, vous avez retravaillé après avoir été mis en régime de retraite, c'est ça?
Voilà, exactement.
4 ans et demi. Alors, est-ce qu'on peut revaloriser un montant de retraite une fois qu'elle a été calculée si on travaille après?
Ah, c'est une vraie question.
Ça, c'est la question,
ouais,
en fait.
Oui, oui. Alors, je n'avais pas compris, effectivement. Alors, merci, mon cher Philippe, de l'avoir formalisé tel que. Mais je n'ai pas, écoutez, je n'ai pas envie de vous apporter n'importe quoi comme réponse. Ce que je vous propose, ouais, éventuellement, c'est de me renseigner là-dessus et puis éventuellement de... on peut la semaine prochaine l'évoquer, mais là comme ça spontanément, voilà, moi, vous savez, quand on est juriste, on évite de répondre justement spontanément ou de l'à peu près.
Je comprends parfaitement, je comprends.
Ouais, donc je vais prendre quand même le temps de vérifier ce point-là et puis je m'autoriserai à vous apporter une réponse qui puisse tenir la route.
D'accord,
on fait comme ça.
On fait comme ça, merci.
Merci, merci à vous, Boumedine. Donc, ça fait deux sujets pour la semaine prochaine. Merci, Boumedine. Alors, on a Saïd qui est avec nous au 01 53 48 3000. Saïd, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Saïd.
Bonjour. Alors, j'ai une question pour Maître Serran. Je vous l'ai déjà posée par mail. J'aurais voulu vous joindre par téléphone, mais je n'ai pas pu. Donc, je vous la pose.
Dites-moi.
Directement. J'ai mon père qui est venu d'Algérie. Moi, je suis de nationalité française. Il est malade. Il est gravement malade. Là, il est venu avec un visa touristique, avec un visa C qui se termine normalement après-demain.
Oui, on a échangé il n'y a pas si longtemps que ça.
Tout à fait.
Effectivement. À fait. Et votre papa donc est malade. Et vous me disiez, donc d'abord, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse rester et demeurer sur le territoire français pour notamment se faire soigner? Et il me semble vous avoir répondu que, alors évidemment, comme ça, spontanément, les autorités préfectorales vont solliciter des preuves de l'état de santé de votre père. Est-ce que vous avez pu obtenir le ou les certificats médicaux nécessaires?
Tout à fait. Donc, j'ai suivi, là, un oncologue qui le suit.
Ouais.
J'ai fait les démarches, en fait, sur le site, les démarches simplifiées. On me propose un rendez-vous pour déposer le 22 juillet. Or, après-demain, il aura fini, il aura consommé son visa.
Non, mais peu importe. Alors, autant voilà, l'administration, les préfectures peuvent sembler comme ça spontanément un peu pénibles, mais là, vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous avez fait le nécessaire, à partir du moment, ouais, où vous avez échangé avec eux, on va pas tenir rigueur à votre père en disant, bah, écoutez, c'est trop tard, le visa est expiré. Si vous, d'accord, justifiez sur un plan purement médical de la situation de votre papa, et c'est ça qui est important et c'est ça qui sera pris en, d'accord, considération, ça posera pas de difficulté, sincèrement.
D'accord, oui, qu'il se retrouve pas en situation régulière.
Non, encore le et ce que je vous dis là vaut pour tout le monde, c'est-à-dire que vous savez, quand vous avez un visa qui est encore valable et que vous faites des démarches et puis le temps d'obtenir un quelconque rendez-vous avec la préfecture ou parfois même une réponse de la part de la préfecture, le visa arrive à expiration, on va pas vous en tenir rigueur. On peut vous tenir rigueur de la situation si, alors sauf urgence absolue ou un cas de force majeure particulier, mais si vous attendez l'expiration d'un visa et puis vous vous réveillez X temps après pour dire, ah bah oui, en fait, je voulais solliciter telle ou telle chose de la part de la préfecture, là, on peut vous en vouloir. Et je peux, d'accord, le comprendre, ce qui est normal. Mais là, monsieur, vous faites et vous avez fait les démarches avant l'expiration. Donc, c'est pas un sujet de préoccupation. Ils vont pas vous embêter là-dessus.
D'accord, ok. C'était ça ma question.
Est-ce que ça répond à votre question, Saïd?
Ça répond une autre question, peut-être.
Ah, on va vous faire un tarif du vendredi, là, Saïd. Je regarde Maître Serran qui acquiesce de la tête.
Ben oui, mais après, si je dis non, le méchant, c'est moi dans l'histoire.
Oui, mais je préfère que ce soit vous.
Ah, ben voilà, oui, j'ai bien compris. On vous écoute, Saïd.
Est-ce que la maman peut rester avec lui, enfin son épouse?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle est souvent posée en la matière. Quand vous avez quelqu'un qui vient sur le territoire français et qui a besoin de soins, oui, il faut quelqu'un de très proche. Alors non pas que vous soyez pas proche de votre père, mais voilà, c'est son épouse. Et puis, vous savez, il y a des choses entre guillemets, en particulier quand on est malade, quand on doit se faire soigner, qui relèvent de l'intime. Donc les enfants sont toujours dans une situation compliquée. Donc il n'y a pas plus proche évidemment que l'épouse. Donc c'est une carte qui est à jouer évidemment. Et puis même sur un plan purement psychologique, quand on est souffrant, le fait que l'épouse soit auprès de vous, évidemment que ça vous permet aussi de vous sentir un peu mieux. Donc c'est une carte qui peut être jouée.
Ce qu'il demande lui, sauf que sur le site, les démarches simplifiées, j'arrive pas à trouver comment faire une demande pour.
C'est toute la difficulté avec leur démarche simplifiée. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, vous avez quelques options et puis il y a parfois des situations exceptionnelles qui n'entrent pas dans ces options. Mais ça, vous l'exposerez au moment où vous déposerez le dossier de votre père. Pour autant, ce serait bien quand même de le formaliser par écrit. Et de l'envoyer quand même à la préfecture. Alors s'il n'y a pas une adresse mail particulière pour l'envoyer, envoyez-le quand même en recommandé à R. Vous conservez la copie, vous le présenterez au moment où vous déposerez le dossier de votre papa.
Parce que la maman, elle doit repartir demain ou plus tard après-demain.
Ah, alors il est certain, vous savez, si elle repart, alors techniquement il n'y a rien qui demande à ce qu'elle revienne compte tenu de la situation, mais les autorités françaises sont moins enclines à accepter. Donc le fait qu'elle reste, ça va être le même raisonnement que votre père.
Faut qu'elle craque son visa là.
Ah oui, mais c'est vrai que... Enfin, elle peut craquer son visa, mais encore une fois, on est dans un cas de force majeure particulière. Je crois comprendre que votre papa, voilà, une pathologie qui est quand même lourde. Donc, le fait que la maman reste présente auprès de son mari, voilà, elle va pas rester pour aller bosser. Donc, ça, c'est aussi un confort et un réconfort pour votre père. Donc, mais il y a ce risque-là, évidemment.
Ouais. C'est ça, ce risque, moi, j'ai
pas... Ah oui, bien sûr. Ouais.
Bah, c'est surtout ça. Accepter de ne plus pouvoir refaire la navette pendant un moment.
Ah, mais que les autorités préfectorales n'ont pas apporté une réponse définitive sur la situation de votre père et donc de votre mère, si votre mère fait cette demande-là, il est certain que si demain, j'ai n'importe quoi, ça prend du temps et elle en a marre, et elle dit, bon, bah, je vais quand même faire un tour au pays, on va la laisser, mais elle risque d'être blacklistée. C'est-à-dire que si elle reste, elle doit prendre le risque de rester jusqu'à l'aboutissement de la situation. C'est un risque. Selon moi, le risque reste calculé quand même, compte tenu de ce que vous nous avez dit concernant votre père. Je le redis, les autorités françaises sont ce qu'elles sont, mais elles sont pas... on peut pas dire qu'elle n'ait aucune pitié, qu'elle comprenne pas les situations. Quand les autorités préfectorales doivent être critiquées, on le fait. Mais là, en la matière, sincèrement, il y a une souplesse de la part des préfets. Donc, ce sont des situations qui sont quand même exceptionnelles. Donc, c'est un risque qui est quand même calculé.
D'accord. D'accord. Ok. Donc, je peux quand même prendre le risque de garder la maman.
Selon moi, oui, parce que ça me semble objectivement justifié.
D'accord, ok, très bien, merci à vous.
Merci Saïd. Alors on accueille Karim au 01 53 48 3000. Karim, vous êtes le bienvenu et Maître Serran écoute votre question.
Oui, bonjour Maître Serran.
Bonjour Karim.
Oui, excuse-moi, en fait je suis un peu hors sujet, en fait c'est pas le droit du travail.
Il n'y a pas de sujet particulier, vous faites bien de le préciser.
Sauf si ça concerne la cuisine.
Oui, voilà, ça c'est autre chose, voilà. Bon, mais n'hésitez pas, c'est pas grave.
Je vais faire vite, il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, j'ai accompagné une personne âgée pendant 5 ans, une personne que je ne connaissais pas, je l'ai croisée dans la rue comme ça, je l'ai accompagnée pour l'aider à faire ses courses, ses rendez-vous médicaux, tout ça, tout ce qui est rendez-vous. Et en fait, au bout de 5 ans après, moi je ne savais pas, en fait, elle m'a dit qu'elle avait une assurance vie, elle a débloqué. Et en fait, elle m'a dit, je voulais t'offrir un cadeau, parce que tu étais avec moi, tout ça.
D'accord.
Et elle m'a offert, en fait, un chèque de 10 000 euros. Elle m'a dit, t'achètes une voiture.
Ouais.
Je ne sais pas, moi, je suis parti, j'ai acheté une voiture, j'ai continué à l'accompagner, tout ça. Il y a une période où j'ai perdu mon travail. Elle m'a aidé 2 ou 3 fois, comme ça, on va dire, l'équivalent de 3 chèques, peut-être l'équivalent de 3 500, trucs comme ça. En gros, c'est l'équivalent de 14 000 euros en tout.
D'accord.
Et en fait, maintenant, il y a son mari qui était au courant, Sauf que maintenant, il veut se retourner contre moi.
Bah oui, j'imagine qu'il va invoquer ce qu'on appelle l'abus de faiblesse. Bah,
le mari, il vivait avec elle ou pas? Parce que
ouais, il est avec elle, sauf qu'il ne s'est jamais occupé d'elle.
Et d'accord, mais vous voyez quand même au quotidien ou pas?
Oui, il me voit tous les jours. Ouais. Je suis chez eux tous les jours. Il me voit. Il était au courant qu'elle m'a acheté une voiture.
Voilà. Donc
et maintenant, il veut se retourner contre moi. Il voilà. a déposé.
Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre temps? Qu'est-ce qui lui prend? Puisqu'il vous me dites qu'il est au courant de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il cherche à vous embêter maintenant?
En fait, il est dans une secte. En fait, il m'a un petit peu forcé d'entrer avec eux. Ces gens-là, ils sont pas dans le territoire français. Et il n'arrêtait pas de me proposer d'entrer avec eux dans cette secte. Sauf que j'ai jamais accepté. Et en fait, maintenant, il se retourne un petit peu contre moi. Pas un petit peu, il a déposé carrément plainte.
Et là, j'avais été entendu par la police ou pas encore?
Ils m'ont jamais appelé, ça fait 4 mois, mais c'est pour ça que je vous ai appelé. Est-ce que je dois anticiper?
Non, monsieur, il n'y a rien à anticiper. C'est-à-dire que vous continuez de faire ce que vous faites, parce que si vous arrêtez du jour au lendemain, c'est ça qui va sembler suspect, mais écoutez, quand la police aura envie de vous entendre, vous serez officiellement convoqué. Vous pourrez, si vous le souhaitez, demander à être accompagné par un avocat, mais c'est pas obligatoire à ce stade-là. Et puis vous apporterez votre explication. Mais le fait que monsieur alors vive au domicile, vous voit tous les jours et est informé de tout ça. Enfin voilà.
Mais simplement, ça fait depuis qu'il a porté plainte, il veut plus que sa femme elle m'appelle.
Ah bah ça, bon, évidemment, ça je peux l'entendre et le comprendre. Mais après voilà, il s'agit pas de forcer la main à ce type-là. Écoutez, il devrait pas y avoir de difficultés particulières. Je vais vous donner et communiquer mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à appeler. Et je suis donc joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Je suis curieux avec l'histoire de Karim. Je suis sûr qu'il manque des bouts, là.
Ouais,
ça change de d'habitude, là, votre histoire, vrai. Karim. Ah, ça, c'est pas une histoire qu'on a toutes les semaines.
Ouais.
Bon, alors peut-être qu'on creusera la semaine prochaine si vous avez un complément d'information, Maître Serran. Merci, Karim. Merci à tous d'avoir été avec nous. Maître Serran, pas de maillot de bain. Vous serez encore là.
Non, manifestement. La semaine prochaine. Je viendrai avec mon maillot de bain quand même.
Oui. Mais voilà. J'espère que vous aurez quelque chose au-dessus.
Non.
Non. Ah, c'est demain. On va filmer, alors. On va être en live, Maître Serran. Et demain, vous retrouverez l'imam Abdelali Mamoun. Évidemment, pas en maillot de bain, évidemment,
non,
parce que
non,
c'est
non.
L'imam Abdelali, vous le retrouverez. Merci pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.